Le sport sur Radio Okapi, c'est une question de condition physique. Imaginez partir de Kinshasa en 800 mètres et débarquer en Bandaka, en canoë kayak, franchir les forêts de la province orientale en saut en hauteur, décrocher une médaille de bronze à Lubumbashi, traverser le lac Kivu à la nage, style papillon, et j'en passe. Okapi Sport. Un ensemble de correspondants et une équipe de présentateurs bien en forme pour vous apporter l'information sportive là où vous vous trouvez. Okapi Sport, car la passion du sport est sur Radio Okapi.
Bien, suite à une forte pression démographique, on assiste au développement des villes et grands centres urbains de la RDC. À Kinshasa, par exemple, des terrains sont de plus en plus occupés, des nouveaux quartiers naissent sans respect des normes urbanistiques, et pourtant, l'extension d'une ville doit se faire selon un plan d'aménagement précis. Quelles sont les conséquences du non-respect des normes d'urbanisation? Professeur Joël Kankou, encore une fois, bonjour.
Bonjour, monsieur Julien Kassar.
Vous êtes urbaniste. Qu'est-ce qu'on entend par normes d'urbanisation?
Alors, c'est-à-dire qu'une ville ne se conçoit pas au hasard. Une ville se construit selon un modèle. Mmh. Il existe essentiellement deux types de modèles théoriques des villes. Il existe ce qu'on appelle le modèle d'Amsterdam et le modèle de Johannesburg. Le modèle d'Amsterdam, c'est un modèle qui fait le choix de la maximisation, le choix de ce qu'on appelle l'urbanité, c'est-à-dire la concentration d'une majorité des choses sur une petite étendue. C'est ça vraiment une ville, car une ville doit être dense. Une ville doit être dense, une ville doit avoir un centre, une ville doit avoir les plus petites distances possibles entre ses habitants. Et une ville doit surtout remplir ce que l'on appelle les fonctions urbaines. Et parmi ces fonctions urbaines, les essentielles sont la fonction résidence, c'est-à-dire que quand un urbaniste conçoit le plan d'une ville qu'on appelle le plan d'urbanisme, alors que le plan d'une maison individuelle que vous construisez souvent est conçu par un architecte, et donc cet urbaniste doit se dire où est-ce que je veux faire habiter les résidents de la ville. La deuxième fonction, c'est la fonction emploi ou la fonction industrielle. Alors, ces habitants que l'urbaniste va mettre à tel endroit, où vont-ils aller travailler? La troisième fonction, ce sont les équipements publics principaux de la ville. Par là, j'entends les hôpitaux, les écoles, les centres de loisirs, les grands commerces modernes, les banques, les centres administratifs, les salles de sport, etc., etc. Alors, vous voyez déjà que rien que pour ces trois entités, vous comprenez facilement que les habitants de la ville doivent pouvoir se déplacer de leur lieu de résidence à leur lieu de travail et à la fréquentation des principaux équipements de la ville. Oui. Ce qui nous amène à une quatrième fonction, et non la moindre, la fonction transport. La ville doit donc mettre à la disposition de ses résidents les moyens de transport performants et bien sûr avec des distances les plus courtes possibles. Car la fonction principale d'une ville, c'est la relation, c'est-à-dire le contact facile entre ses résidents, à l'inverse du milieu rural où on trouve par exemple 180 km².
Alors, vous avez parlé des deux modèles, le modèle d'Amsterdam et celui de Johannesburg. Alors, celui de Johannesburg se présente comment?
Alors, le modèle de Johannesburg, c'est un modèle qui fait le choix de l'écartement de toutes les choses. Donc, sur les larges espaces, toutes les choses sont écartées les unes des autres. Mais pour adopter un tel modèle, il faut avoir des moyens de transport, des infrastructures de transport performants qui puissent permettre, malgré les distances physiques énormes, de casser ces distances, de revenir aux distances temporelles raisonnables. C'est ce qui se passe par exemple dans un pays comme les États-Unis d'Amérique, où grâce aux larges autoroutes, grâce à un peu de motorisation exceptionnelle, les classes aisées américaines peuvent se permettre d'aller habiter à des dizaines de milliers de kilomètres du centre ville, parce qu'ils ont des moyens de transport individuels, ils ont moins de voitures par famille.
Et les routes sont en très bon état.
Les autoroutes sont larges en très bon état. Donc on peut se permettre ce genre de modèle. Et ce genre de modèle, normalement, sera en place automatiquement une fois que la ville est dense. Donc le modèle d'Amsterdam, le choix de la maximisation des urbanités, une fois que cette ville est devenue très dense, elle va se desserrer d'elle-même automatiquement.
Alors, professeur Joël, prenons les cas de la ville de Kinshasa. La ville s'étend de plus en plus avec l'exode rural, avec les différentes guerres qu'il y a eu dans ce pays. Donc, il y a une forte pression démographique. Alors, le problème des logements se pose, vous le savez, à Kinshasa. C'est un casse-tête. Alors, les gens cherchent à occuper des espaces. Et on assiste à une extension de la ville, peut-être une extension qui n'est pas bien encadrée. Alors, normalement, comment cela devait se faire?
Alors, le problème de la ville de Kinshasa, c'est que cette ville, la grande métropole congolaise, n'a jamais connu de plan d'urbanisme. C'est ça qui est dommage. Depuis l'époque coloniale,
il n'existe pas un plan d'aménagement de la ville.
Donc, il y a eu des propositions de plans d'aménagement,
oui.
Mais la ville de Kinshasa n'a jamais connu l'application d'un plan d'urbanisme. Le meilleur plan a été le plan de 1950 proposé par l'administration coloniale,
oui.
Mais ce plan n'a pas été réalisé. Alors, depuis l'époque coloniale, comment Kinshasa a été mis en place? À part la ville Gombe, qui était la ville européenne, qui a été construite selon les normes urbanistiques en vigueur à l'époque en Europe, toutes les autres communes dites à l'époque sud-africaine ont été construites par ce qu'on appelle la politique urbaine d'habitat d'autopromotion.
Oui.
C'est-à-dire que des parcelles larges de terre sont distribuées aux habitants qui construisent chacun selon ses propres moyens. Et ce qui fait que les espaces ne font que s'allonger, parce que ces parcelles sont larges. Sur ces parcelles, il y a une densité d'habitation très faible, une densité de population, c'est-à-dire le rapport de la population à la superficie habitée est très faible, ce qui fait qu'au lendemain même de l'indépendance, le temps était déjà donné, la ville de Kinshasa avait déjà dépassé la rivière de Ngili, alors que la densité de population restait extrêmement faible.
Professeur, certains parlent d'un plan d'urbanisation, les 74 qui existent depuis ces années-là.
Alors, il y a eu un plan de 1968 qui a été révisé en 1975-74, qui n'a pas été appliqué.
Oui.
Ensuite, le dernier plan, c'est le plan des années 2005-2006, qui n'a pas été non plus appliqué. Mais ces deux plans sont de mauvais plans d'urbanisme pour la ville de Kinshasa.
C'est de mauvais plans.
Ce sont de mauvais plans, parce que ce sont des plans qui privilégient toujours la fameuse ville Est. Donc, on étire la ville de Kinshasa jusqu'à Malokou. Vous savez qu'aujourd'hui, la ville de Kinshasa...
Mais c'est pas aujourd'hui du côté de... vous prenez Pompage...
Mais justement, si ça n'est pas bon, on va de plus en plus à la périphérie.
Oui.
Les anciennes périphéries sont devenues aujourd'hui le centre géographique de Kinshasa. Vous vous souvenez, les communes de Bombo Makalangaba, à un certain moment donné, étaient la périphérie de Kinshasa.
Oui.
Aujourd'hui, ces communes sont géographiquement au centre de Kinshasa.
Oui.
Et on continue à donner des parcelles de terre de plus en plus à la périphérie, ce qui fait étendre la ville davantage, alors
d'une manière désordonnée.
Alors que ces nouveaux quartiers, déjà, on ne devrait pas mener cette politique d'autopromotion,
oui.
Mais aussi et surtout, ces quartiers, ces nouveaux quartiers créés, ne sont pas équipés. On se contente de donner des lotissements et de tourner le dos. Ils ne sont pas équipés, il n'y a pas de voirie secondaire, il n'y a pas de voirie tertiaire à l'intérieur de ces communes, il n'y a pas les réseaux primaires de distribution d'eau et d'électricité, il n'y a surtout pas le réseau d'assainissement qui permettrait l'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales. Ce qui nous amène d'ailleurs à tous les problèmes que l'on a de ça, les érosions, l'instabilité un petit peu partout, ce qui débouche donc sur la fragilité de la santé des populations et donc diverses maladies. Et vous savez qu'un habitant malade coûte très cher à son pays, parce que non seulement il ne peut pas travailler, mais il faut le soigner.
Alors, s'il faut aménager, par exemple, un quartier, quels sont ce qu'il faut, on doit retrouver, donc les éléments importants à retrouver dans ces quartiers-là?
Alors, d'abord, nos urbanistes ont pris cette mauvaise habitude, laissée par l'administration coloniale, de ne travailler que sur ce qu'on appelle les plans particuliers d'aménagement. Ce sont les plans qui s'appliquent à un quartier ponctuel bien donné. C'est que l'administration coloniale belge faisait, on construit les communes de Kinshasa-Barombo,
voilà,
à notre promotion bien sûr, après on sort, on a construit le Kassavogo-Ngiri, donc chaque fois on s'applique à une commune, alors qu'un plan d'aménagement doit concerner l'ensemble de la ville. C'est-à-dire que chaque nouveau quartier mis en place, chaque nouvelle commune mise en place, doit être intégrée à l'ensemble de la ville. Je vous dis tout à l'heure qu'il faut qu'il y ait le contact facile entre tous les habitants de la ville de Kinshasa, il faut que les habitants puissent se déplacer
facilement
d'un lieu à l'autre. Mais quand on fait comme ça,
les équipements, vous avez parlé des centres de santé, on doit retrouver des écoles, ça doit être facile.
Et tout ceci dans un plan d'urbanisme général qui intègre tous les quartiers de la ville, pour que toutes les choses soient concentrées sur le moins d'espace possible. Parce que quand les distances s'agrandissent, non seulement l'habiter de mauvaise qualité, parce que vous voyez l'habitat d'autopromotion, il est difficile.
C'est pas du quoi, habitat d'autopromotion?
Alors, c'est l'habitat où le propriétaire est son propre promoteur. vous avez juste un lopin de terre que vous avez acheté au prix de ces urbanismes et des affaires frontières chez nous, mais pour la construction.
C'est sûr que tu mets, comme c'est le cas.
Oui, c'est sûr que tu mets, surtout au début, au lendemain de l'indépendance, et même juste au lendemain de l'indépendance.
Oui.
Et donc, vous êtes le seul à vous occuper de la promotion de ce terrain. C'est à vous, selon vos moyens, de construire une maison sur ce terrain. Ce qui fait qu'on trouve des maisons qui ne sont pas vraiment des maisons d'habitation, parce que ces maisons non plus ne remplissent pas les deux fonctions de maison d'habitation. Vous savez qu'il y a beaucoup de maisons où il n'y a pas de salle d'eau, il n'y a pas de toilette à l'intérieur. Vous savez, dans la plupart de vos parcelles, les gens font la queue le matin pour aller aux toilettes, ça ne peut pas s'appeler une maison d'habitation.
Mmh.
Et sur ces parcelles larges, quand vous les prenez en général, disons que nous, on a des familles d'environ 7 personnes par famille. Je peux vous dire que sur une parcelle de 400 mètres carrés, où il y a 7 familles, par exemple, de 7 membres par famille, on a au total 49 personnes, une cinquantaine de personnes.
Mmh.
Alors que sur cette même parcelle, si on mettait deux immeubles de 4 étages simplement, avec deux logements simplement par niveau, on aurait 10 logements par immeuble, donc 20 logements pour les deux immeubles sur la même parcelle.
Mmh.
Et si on prend 7 personnes en moyenne par famille, 7 fois 20, ça nous fait 140 personnes. Donc sur la même parcelle où habitent aujourd'hui une cinquantaine de personnes, on peut y mettre facilement 140 personnes sur la même parcelle.
Alors,
dans des logements de bonne qualité.
De bonne qualité. Aujourd'hui, à Kinshasa, par exemple, on assiste à un boom de l'immobilier. Les gens construisent, les immeubles poussent un peu partout. Mais apparemment, ça se fait, c'est d'une manière désordonnée, parce qu'à côté, vous trouvez des maisons basses, et puis, c'est pas beau à voir. Alors d'ailleurs, vous trouvez des maisons du même type dans un quartier, et c'est beau à voir, professeur.
Absolument, parce que déjà, quand on construit dans un quartier, il faut qu'on respecte, en tout cas, les règles d'architecture et d'urbanisme, comme vous le dites. On ne peut pas mettre un immeuble, par exemple, qui fait, j'exagère un petit peu, 50 étages, dans un quartier où toutes les maisons sont à un seul niveau. Ça devrait être interdit. Donc, la hauteur de l'immeuble est conditionnée par la largeur des rues. Un immeuble ne doit pas être excessivement haut par rapport à la largeur de la rue sur laquelle il se trouve. Tout ça, ce sont des normes qui font partie du droit d'urbanisme qui existent bien dans notre pays, mais malheureusement, qui ne sont pas respectés.
Oui. Alors, on a la question de savoir quel danger à l'avenir.
Eh bien, lorsque les normes ne sont pas respectées. Alors, c'est ce que nous vivons tous les jours aussi. Vous voyez que tous les quartiers à la périphérie de Kinshasa, on peut même commencer par les quartiers centraux, parce que les anciennes communes, et même Barumbu, Kinshasa, et voilà, qui sont les premières communes après Kintambo à être construites dans les années 1920, sont insalubres aujourd'hui. À cette politique d'autopromotion. Et tous les quartiers périphériques, Massine et Dumansé, tout ça où vous allez, sont des quartiers difficiles à vivre. Les jeunes qui y habitent non seulement ont du mal d'atteindre leur lieu d'emploi, qui sont essentiellement restés à Limité et à Gombe, parce que les nouvelles zones d'emploi n'ont pas été créées.
Parce que chaque matin, on voit des poules qui convergent vers le centre-ville.
Alors, ces gens, non seulement ils ont du mal à atteindre le centre-ville, mais aussi et surtout, ils dépensent au moins le tiers de leurs revenus dans les transports. C'est énorme, ça. Donc, ce qu'il faut faire, à mon avis, c'est plutôt la rénovation urbaine. La rénovation urbaine consiste en tout cas à détruire tout ce qui n'est pas vivable pour reconstruire les communes centrales de Kinshasa en hauteur, parce qu'il faut bien faire l'économie de l'espace. Vous savez, aujourd'hui, dans le monde entier, c'est la maximisation de l'urbanité qui est choisie. Les pays comme la Belgique et l'Angleterre, qui étaient contre l'écrasement de l'échelle humaine, qui ne voulaient pas construire des immeubles de grande hauteur, ils y sont mis aujourd'hui. La France a aujourd'hui son petit Manhattan dans le quartier de la Défense. Bon, vous savez,
ici, par exemple, à Kinshasa, est-ce que ce sont les espaces qui manquent?
Les espaces sont là, mais les espaces sont mal utilisés. Kinshasa, c'est une ville qui a la chance d'avoir des terrains facilement urbanisables. Parce que nous avons des pentes qui atteignent difficilement 9% ou au-delà de 9%. Donc nous avons des terrains là.
Aussi, c'est des érosions, puis des centres d'érosion dans cette ville-là.
Bien, les érosions sont dues à quoi? Les érosions sont dues au ruissellement de l'eau pluviale. Quand la pluie tombe et que l'eau prend de la vitesse, il y a ce qu'on
ruissellement sauvage.
Il y a ce qu'on appelle une certaine vitesse limite. Quand c'est critique, quand cette vitesse est dépassée, il y a des ravinements, c'est ça qui est venu pardonner l'érosion.
Alors, professeur, les auditeurs vous écoutent de partout à travers le pays.
Oui.
Vous voulez également participer, ils appellent pour poser des questions, et d'autres peuvent le faire. Il y a certains d'eux qui sont déjà en ligne, Joël Mbanata et Soufi de Kalima au Manema. Vous voulez également participer, appelez-nous au 081 890 63 94.
Le réveil avec Radio Okapi, c'est une session d'information en français, en soi, en Kiluba, en Kikongo et en Lingala. C'est aussi des synthèses de l'actualité africaine et internationale, la revue de la presse chinoise et du sport. De 5h à 9h, découvrez qui a fait quoi, à qui, quand, où, comment et pourquoi, avec la session d'information de la matinale de Radio Okapi. Lorsque les yeux se lèvent à 5h, Radio Okapi met le Congo à la une de ses ombres. La matinale de Radio Okapi, c'est de lundi à vendredi de 5h à 9h, heure de Kinshasa.
Joël en ligne de Mbandaka, bonjour.
Bonjour Radio Okapi.
Quelle est votre question, Joël?
Oui, qu'est-ce qui peut être fait pour que nos villes qui ont raté les urbanisations, si je peux le dire ainsi, par exemple la ville de Mbandaka où la voirie a été construite sans canalisation, il se pose un problème par de pluie. Qu'est-ce qui peut être fait?
Oui, et qu'est-ce qui peut être fait pour, par rapport à la ville de Mbandaka où il n'y a pas de canalisation d'eau, c'est ce que vous voulez dire?
Oui.
Merci Soupi de Kalima, bonjour.
Bonjour journaliste, bonjour aussi à mon professeur.
On vous écoute, Soupir.
Oui, je voudrais seulement demander à notre invité, par exemple, si on veut construire un nouveau quartier, qu'il soit différent à d'autres quartiers, quelles sont maintenant les distances qui peuvent être séparées, par exemple, à cette parcelle vers l'autre parcelle. Voilà, c'est tout.
Merci Théo, on nous appelle de Boutembo, au Nord Kivu, bonjour.
Oui, bonjour, bonjour à la Radio Okapi, bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi.
On vous écoute Théo.
Bon, il y a un problème, vraiment ici à Boutembo, c'est une question qui nous dérange un peu. Donc partout, on érige de maisons, de 2 étages, 3 étages, voire même 4 étages, dans des quartiers périphériques et même plus loin de la ville. Alors, je ne sais pas s'il y a un petit conseil que l'invité peut donner à mon patron qui érige des maisons ici à Boutembo. Mais il n'y a pas de drainage, de l'eau, donc tout est vraiment à désordre ici à Boutembo. On construit, mais vraiment à désordre.
En désordre, ouais. Voilà. Professeur oui. Joël. Vous avez la parole.
Alors, vous voyez tous les problèmes qui sont invoqués par nos auditeurs.
Le premier intervenant, Joël de Mbandaka, dit il n'y a pas de canalisation d'eau, qu'est-ce qu'il faut faire?
Alors, ce qu'il faut faire, c'est que vous savez bien, nos routes dans toutes nos villes ont été laissées depuis la création coloniale. Et le gros problème d'ailleurs qui fait que même à Kinshasa, on le voit, toutes ces routes tombent tout le temps, disons, les liquides parce que impraticables. Pourquoi? Parce qu'au moment où ces routes ont été construites, la circulation était tellement faible que on pouvait se contenter de faire ce qu'on appelle la structure en GNT, c'est-à-dire en grave non traité, c'est-à-dire en terre naturelle. Donc, il y a là le sol naturel qui est là, au-dessus de ce sol, on construit la chaussée en terre tout simplement. Alors ça, ça peut tenir jusqu'à un certain nombre de véhicules poids lourds par jour. Si on dépasse 150 véhicules poids lourds par jour, une route en terre naturelle tient sans problème. Or, aujourd'hui, ces routes, à l'image de Kinshasa, sont fréquentées par plusieurs poids lourds par jour, à commencer par les véhicules de transport en commun, des taxibus, des camions.
Mais pour le cas de Mbandaka, par exemple, il n'y a pas une très forte circulation comme à Kinshasa. Il y a seulement un problème de canalisation. Alors, des routes, il n'y a pas assez. Les eaux de pluie, il y a un ruissellement sauvage des eaux de pluie.
Justement, il faut faire ce qu'on appelle la réhabilitation routière, donc la réhabilitation de ces chaussées. Il faut reconstruire ces chaussées, donc en les dotant des canalisations, d'évacuation d'eau, parce que les gens qui font les travaux sur la société, malheureusement, ici, sont actuellement, où ils le savent, où ils le négligent, et que l'ennemi principal d'une route, c'est l'eau. Donc, quand on construit une route ou quand on la réhabilite, il faut d'abord, premièrement, penser à l'évacuation des eaux pluviales qui tombent sur la chaussée. Si c'est négligé, vraiment, ça ne vaut pas le coup. Voilà. Et toutes nos routes, oui. Mbandaka, je pense que ça participera dans toutes nos villes, ne sont pas dotées de trottoirs. Ça, c'est incroyable, ça. Toute route doit avoir un trottoir. Un trottoir, c'est un espace surélevé par rapport à la chaussée, qui fait que cette bordure qui est surélevée protège le piéton qui se balade sur le trottoir, des véhicules, des automobiles qui roulent sur la chaussée. Donc on va partir chez nous, on a ce qu'on appelle les accotements, c'est-à-dire qu'ils sont au même niveau que la chaussée.
Mmh.
Le piéton n'a pas son espace pour s'exprimer.
Alors, Soupi Dekalima a posé cette question, s'il faut construire un nouveau quartier, quelle est la distance qu'il faut prévoir entre les différentes infrastructures?
Alors, il ne faut pas raisonner en termes de nouveaux quartiers comme s'il était isolé. On se demande où est-ce qu'on va le passer, à quelle distance, etc. L'urbanisation doit être un ensemble de la ville. Donc, ce nouveau quartier doit pouvoir s'insérer dans le plan d'urbanisme d'ensemble de la ville.
Oui.
Ça ne doit pas être considéré comme un quartier isolé. Une ville, normalement, doit avoir un centre. Un centre pour que tous les habitants de la ville puissent être situés à peu près à égale distance du centre pour que le déplacement soit facile.
Mmh.
Ou c'est fait géométriquement, distance kilométrique, ou alors c'est fait temporellement, distance temporelle. Distance temporelle, ça veut dire que où que vous soyez, où que l'on mette votre quartier, il faut que le temps que vous mettez pour accéder au centre de la ville, où on trouve tous les équipements, vous savez, dans le centre, il y a tout, le centre, c'est le plus...
Il y a des magasins, il y a des grands marchés,
il y a des marchés, il y a tout.
Oui.
Il faudrait que la distance de chaque citoyen pour accéder au centre ne soit pas exagéré.
Oui.
Donc, si la distance physique n'est pas grande,
oui,
il faut qu'on lui mette le moyen de transport performant,
oui,
qui lui permet d'accéder facilement au centre.
Avant de reprendre à la question de Théo, de Boutembo, nous avons encore deux autres auditeurs en ligne. Christian nous appelle Mandaka, Grégoire se trouve également à Mandaka. Christian, bonjour.
Bonjour, M. Jésus Daniel Kachama, bonjour à l'invité, ainsi qu'à tous les auditeurs de l'OCAPI Service.
On vous écoute, Christian.
Oui, je voudrais demander à l'invité, lorsqu'on a, après avoir acheté une parcelle, on veut construire, et dans cet endroit, quand il a plu, après la pluie, on trouve qu'il y a des eaux stagnantes. Est-ce que dans des pareils endroits, on peut avoir des constructions en étage, ou il est conseillé de construire, mais pas en étage? Ça, c'est la première question. Et la toute dernière, je voudrais que l'invité puisse quand même puisse aider à trois procédures pour la construction en étage, afin que cela soit durable à la longue. Merci.
Merci, Christian de Mandaka. Grégoire, bonjour. Vous êtes en Mandaka?
Bonjour, bonjour les gens, bonjour l'invité, bonjour les gens de la location. J'ai deux petites préoccupations.
Oui.
La première est que, parce que c'est déjà consommé, on a déjà distribué des terrains sans que les préalables soient déjà tracés, notamment la route, notamment l'eau, et l'électricité ainsi que les quartiers réservés aux jeunes pour l'aider. C'est déjà consommé. Quel conseil on peut maintenant donner aux gens qui ont construit et quelle est la solution que l'État peut apporter à ce niveau-là? Donc, la deuxième question, je voulais aussi demander à l'invité s'il puisse donner les conseils à ceux-là qui distribuent le terrain pour que, avant de le faire, que tout soit déjà bien préparé pour qu'il n'y ait pas de problème dans l'avenir. C'est ça, mes deux préoccupations.
Merci, Grégoire. Rigan, en ligne depuis Lubumbashi, bonjour.
Bonjour, bonjour à l'invité.
Bonjour.
Allez-y. Je voulais un peu intervenir concernant le, disons, c'est comme ici à Lubumbashi,
oui,
tout le monde a tendance, disons, de construire une maison en étage. Si vous remarquez bien, la ville de Lubumbashi, disons, est devenue très, très sale. Vous remarquez, oui, quelqu'un qui construit une maison en étage, mais ici en bas, il y a des sachets, des bidons, des choses, mais là, disons, là, on se propre. Donc, ils mettent des vitres, des quoi, des choses. Mais, je voudrais un peu poser la question.
Oui.
Est-ce qu'il y a moyen de créer encore une autre ville, quelque part? Est-ce que c'est possible de créer encore une autre ville?
À côté de la ville de Lubumbashi.
Oui, c'est très sale, vraiment, je vous dis.
Merci, Rigan, pour cette question. Florent nous appelle de Bounia, en Ituri, dans la province orientale. Bonjour.
Bonjour, monsieur, je dis bonjour, notre invité. Moi, je voudrais juste poser une question parce que je vois, je suis en train de constater que tous les gens qui construisent, ils obtiennent des documents et des carrés, des périmètres à construire auprès du chef de l'État. Maintenant qu'aujourd'hui, on est en train de voir qu'on cherche à mettre de l'ordre et à construire des niveaux par-ci par-là, dans des routes vers la ville.
Oui.
Est-ce que l'État a le droit de dommager tous ces gens qui ont acheté à des formes, des documents et les passer auprès de l'État?
Merci. Zoé nous appelle de Colésie au Katanga. Bonjour Zoé.
Bonjour, c'est Monsieur Joe, c'est pas Joe, j'ai connu au Corée, s'il vous plaît.
Ah, merci, Monsieur Joe, on vous écoute.
Oui, je pense que cette émission tombe à point pic.
Oui.
Il n'y a pas longtemps que j'ai suivi la radio France Inter, où on a parlé sur l'accroissement des constructions anarchiques.
Oui.
À Kinshasa, ou en Afrique au monde, s'il vous plaît.
Oui.
Mais il se pourrait que dans 10 ans, Kinshasa serait la plus grande ville d'Afrique, mais la moins connue du monde. Hein?
Oui.
Mais qu'est-ce que le ministre des Affaires foncières, qu'est-ce qu'il prévoit? Qu'est-ce qu'ils ont prévu? Hein? Est-ce qu'ils ne sont pas interpellés déjà par cette situation, cette éventuelle situation? Mais c'est la question maintenant que je pose à l'invité qui est sous place. Qu'est-ce que lui aussi peut faire? Quelle est sa lecture face à cette situation éventuelle?
Merci Joe d'Ecologie au Katanga. Professeur Joël, vous avez plusieurs préoccupations des auditeurs. Allez-y.
Commençons par.
Joël, là, qui vous appelait de Mbandaka, a parlé des canalisations, vous l'avez répondu, Stoupi a parlé des nouveaux quartiers, la distance qu'il faut prévoir. Théo, à Boutembo, il dit on hérite des maisons, 2 étages dans la périphérie, mais ça se fait en désordre. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant?
Alors, c'est toujours le problème du plan d'urbanisme. Pour ériger une maison, il faut quand même que la personne passe par ce qu'on appelle l'autorisation de construire, l'autorisation de bâtir ou le permis de construire. Alors, ce permis, normalement, avant qu'il soit octroyé, les services d'urbanisme doivent être consultés. Parce qu'il existe toujours des plans d'urbanisme qui datent depuis Mathusalem qui disent là, il faut construire, là, il ne faut pas construire, là, c'est réservé pour telle opération.
Oui.
Donc, malheureusement, nous savons que notre administration est devenue tellement lâche qu'elle ne met plus en pratique, en tout cas, en place les règles strictes qui étaient mises avant par l'administration coloniale.
Oui.
C'est ce qui fait que les permis de construire, les autorisations de bâtir sont données sans construire les plans d'urbanisme, et donc les gens construisent dans le désordre.
Oui.
Mais comme avait dit demandé tout à l'heure l'autre auditeur, ce genre de maisons, normalement, tôt ou tard, seront détruites. Ça, il n'y a rien à faire. Si un jour on revient à l'application stricte des plans d'urbanisme, la plupart des constructions seront détruites, quitte à dédommager ceux qui les ont construits
en même temps. Oui. Et c'est ce que, d'ailleurs, je crois qu'il y a un auditeur qui a parlé de ça, Florent Mbougna, qui a dit les gens qui ont construit, ils ont obtenu des autorisations en bonne et due forme. Oui. Maintenant, est-ce que l'État va dédommager ces gens-là, alors qu'ils ont tous les documents qu'il faut?
Oui, normalement, les gens qui ont construit dans des terrains inconsultibles, des terrains frappés d'inconsultibilité, doivent voir leur logement, leur construction détruite, ça va de soi. Mais comme ils avaient des bâtiments en règle, il va de soi également que les services de l'État puissent les dédommager.
Alors,
qu'ils puissent aller construire.
Reagan est à Lumbashi, il déplore le fait qu'il y a des maisons, des belles maisons, mais en bas, c'est l'insalubrité. Il demande si c'est possible de créer une autre ville à côté de Lumbashi.
Alors, quand est-ce qu'on crée une autre ville? On crée une autre ville
à cause de l'insalubrité.
Non, on crée une autre ville parce que la ville ancienne est trop dense. C'est-à-dire qu'elle est trop habitée, il n'y a plus d'espace pour construire, elle fait géant au milieu du désert, par exemple, s'il n'y a plus rien d'autre autour de cette ville-là. C'est là qu'on va construire ce qu'on appelle, par exemple, une ville nouvelle, pour essayer de stopper l'attrait que cette géante ville exerce sur tout l'espace rural qui l'entoure. On ne crée pas une ville parce que la première est sale. Donc, si la première est sale, ça c'est une question tout simplement de se donner le moyen de nettoyer cette ville, de la rendre propre et
du alors, pourquoi ces gens-là? Comme ça, par exemple, on parle aujourd'hui de plus de 10 millions d'habitants. Il y a une forte concentration de la population. Et est-ce qu'on peut créer d'autres villes?
Alors, je ne pense pas. Je vais vous donner quelques chiffres. Hein. 10 millions d'habitants, c'est un petit peu exagéré parce que j'ai quelques chiffres-là. Je vous donne l'exemple de la ville de Paris. La ville de Paris a une superficie de 105 km² seulement. Et sur les 105 km², il y a 2 200 000 habitants. Sur 105 km². Je reviens à Kinshasa. L'autre ville de Kinshasa, avec ses 24 communes, donc mal occupées, c'est 9 965 km² sur lesquels il y a à peine 7 millions d'habitants. Si vous prenez la ville de Tokyo,
c'est une statistique de quelle année
Alors ça, c'est 2006.
C'était 2006 aujourd'hui.
C'est l'histoire de l'intérieur.
Oui,
2006, 2010, les sujets de pour Paris, c'est 2005.
Il y a eu évolution entre-temps.
Il y a eu évolution partout.
Oui.
Parce que pour Paris, c'est 2005. pour que ça, ça c'est 2006.
Mm-hmm.
Donc c'est une évolution qui s'est passée, il y a eu également une évolution à Paris et dans d'autres villes dans le monde. Toujours 2016, vous voyez par exemple Tokyo, la capitale du Japon, sur 2145 km² seulement, il y a plus de 12 millions d'habitants. Alors que nous, à Kinshasa, sur 9965 km², on a à peine 7 millions d'habitants, même si c'est 10 millions d'habitants, mmh. c'est toujours au moins 5.
Alors, pour très rapidement, on va terminer. Christian Mbandaka, il dit, est-ce qu'on peut construire un étage sur un, là où il y a des eaux stagnantes ou pas?
Alors, construire un étage, pour construire, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que
le terrain,
il faut que le terrain soit mmh. consulté. Si le terrain est marécageux, si le terrain a des stagnations de l'eau, si on peut, on veut absolument y construire parce que ce n'est pas interdit par le certificat d'urbanisme,
mmh.
c'est qu'il faut se prendre les experts de mécanique de sol qui doivent voir jusqu'à quelle profondeur on peut fonder cet immeuble. Parce qu'un immeuble, si au-dessus il y a de l'argile, il y a de l'eau, il faut qu'on fasse un sondage dans le terrain pour aller voir à partir de quelle profondeur il y a du sable ou du gravier, et c'est là-dessus qu'on doit poser l'immeuble. Donc
alors,
le fait qu'il y ait de l'eau qui stagne dans la surface
oui.
ne peut pas empêcher forcément la construction des immeubles.
Alors, si on veut dire un espace ou un quartier qui respecte les normes d'urbanisation, alors qu'est-ce qu'on doit retrouver dans ces quartiers?
Alors,
des écoles, des centres de santé.
J'aime pas parler des quartiers parce que c'est ça, la mauvaise école qu'on nous a laissée par l'administration coloniale qui continue jusqu'à aujourd'hui. On raisonne toujours les urbanistes en termes de raison, toujours en termes de quartier. Il faut raisonner en termes de la ville. Tout ce qu'on est de la ville doit être intégré dans la ville existante. On doit se demander ce nouveau quartier que l'on crée, quelle est sa place dans la ville, ses résidents, où vont-ils aller travailler, quels équipements ils doivent fréquenter. Donc, on ne doit pas, comme ça, aller avec le monde, créer un quartier à la périphérie de la périphérie, dire qu'on a construit un quartier dans le nouvel. Il faut éviter l'urbanisme des quartiers. Il faut revenir à l'urbanisme englobant l'ensemble de la ville. Chaque fois qu'on place un point quelque part, on doit le placer en fonction de la ville existante.
Mmh.
On ne doit pas placer un quartier comme ça isolé, comme si on était dans un désert. Ce quartier doit être intégré dans la ville qui existe.
Professeur Joël Kankou, urbaniste, merci et peut-être à la prochaine.
Rapidement, je dis qu'il faut absolument que nos urbanistes arrêtent la politique urbaine d'habitat d'autopromotion.
Oui.
Il faut procéder à la rénovation urbaine des quartiers centraux des communes centrales de Kinshasa.
Mmh.
Le périmètre normalement urbain de Kinshasa ne doit pas dépasser la rivière d'Indivi. Au-delà de la rivière d'Indivi, on doit déjà être dans la banlieue de Kinshasa. Il faut rénover le centre. Il faut créer une ceinture verte autour de ce centre dont le périmètre ne doit pas dépasser la rivière d'Indivi.
Mmh.
Une ceinture verte qui sera vouée à l'agriculture rivière pour assurer l'autonomie alimentaire de la ville de Kinshasa. Et au-delà de cette ceinture, ce sera alors les banlieues de la ville de Kinshasa qui devraient être mises en place selon une réglementation stricte. Mais en tout cas,
oui.
la ville Est, qui continue jusqu'à Malgou, peut-être on va atteindre Kenya le lendemain, doit absolument être abandonnée. On a aussi l'aéroport de Dili au milieu de la ville de Kinshasa, alors qu'un aéroport doit être situé loin de la ville, avec ses pollutions, avec ses nuisances, avec ses produits. Vous voyez qu'aujourd'hui, notre aéroport est au centre de la ville de Kinshasa. Donc cette politique urbaine est très dangereuse parce que Kinshasa finira par devenir un monstre gigantesque dans lequel on ne pourra pas se déplacer à pied ou en automobile.
Merci pour passer à Joël Kankou, urbaniste. On va peut-être réunir une prochaine fois.
D'accord,
merci à la prochaine.
Je vous remercie également.